C'est pas du vent.
Lite kraftdom får samma mat som kossorna.
Le magazine de l'environnement.
Men då behöver de få lite extra, så då ger jag dem lite extra.
Sur RFI.
Bonjour, c'est un phénomène que l'on retrouve dans l'ensemble des pays industrialisés. Une partie de la population n'arrive plus à payer ses factures d'électricité à cause de la hausse du prix de l'énergie et de mauvaises conditions de logement. En France, la précarité énergétique concerne 10% de la population. Clémentine Métainier et Margot Emmerich sont allées dans le nord du pays à la rencontre de deux familles dans cette situation qui ont reçu l'aide d'un réseau innovant, le réseau Eco-Habitat. Mais juste avant, nous vous proposons une grande bouffée d'air dans un lieu où l'on retrouve près de la moitié des espèces d'oiseaux européens, au Monténégro. Après des années de lutte menées par les associations environnementales, la saline Dulcine dans le sud du Monténégro vient d'obtenir le statut de parc naturel. Ses marais salants, parmi les plus grands de Méditerranée, ont bien failli faire les frais de l'explosion du tourisme dans ce pays des Balkans et être transformés en hôtel de luxe avec golf et héliport. Maintenant, le défi pour les acteurs locaux consiste à rétablir l'équilibre qui existait entre nature et activité humaine avant la fermeture de la saline. Et il y a urgence pour cette importante réserve de biosphère de l'Adriatique, surnommée le Heathrow des oiseaux. Louis Seyer est allé à la rencontre de ses habitants.
Bon, ici dans la saline, j'ai pleuré trop de fois pour cette saline. Donc maintenant qu'elle est finalement protégée, c'est une belle histoire, c'est rose. Et nous sommes vraiment optimistes quand nous nous rappelons le nombre d'obstacles que nous avons passés et les problèmes que nous avons résolus. Et nous avons réussi à protéger un site qu'il était impensable de protéger. Donc il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire, tout est possible.
Tout est possible. Le sourire resplendissant, Jovana Janusevic regarde amoureusement les différents bassins d'eau qui l'entourent. Devant la jeune femme, des dizaines de flamants roses sondent les eaux salées avec leurs becs recourbés. Ces marais salants qui s'étendent sur 1500 hectares, Jovana les parcourt depuis des années, et toujours avec ses jumelles.
Je travaille pour le Centre pour la recherche et la protection des oiseaux au Monténégro. Ce qu'on voit ici, c'est un endroit que nous aimons appeler un aéroport des oiseaux. On essaie d'expliquer pourquoi la saline Dulcine est si importante sur la route de migration de la mer Adriatique. Donc on essaie de calculer le nombre d'oiseaux qui hivernent ici, nichent ici, se nourrissent ici, qui utilisent ce lieu comme une étape dans leur migration. Et on le compare avec l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, qui est Heathrow à Londres. Et donc, on a calculé que la saline est 50 fois plus importante pour les oiseaux que Heathrow l'est pour les humains.
It's not only the number of species. We have 250.
Ce n'est pas seulement le nombre d'espèces. Nous avons ici plus de 250 espèces recensées en Europe, ce qui est la moitié des espèces d'oiseaux européens.
But we also have great numbers.
Mais nous avons surtout un grand nombre de ces oiseaux. Donc, tout ça indique clairement que la saline est un endroit vraiment très important.
Située dans les Balkans, en face de l'Italie, aux confins du Monténégro, la saline Dulcine s'inscrit dans un triangle naturel exceptionnel entre fleuves, mers et montagnes. Un cadre paradisiaque pour la biodiversité européenne. Oiseaux, reptiles, mais aussi plantes et insectes s'épanouissent dans cette ancienne lagune, façonnée par les humains dans les années 1930. Mais ces dernières années, les marais salants Dulcine ont perdu de leur éclat.
Unfortunately, as you may have known, the Salina went.
Malheureusement, comme vous le savez, la Saline a fait faillite. Le sel n'est plus produit en ce moment, ce qui est très dommageable pour l'ensemble des infrastructures à cause de l'érosion, l'effondrement des digues et des canaux et de tout l'équipement. Donc pour le moment, les oiseaux aussi sont menacés.
Autrefois propriété de la Yougoslavie socialiste, la Saline Dulcine a bien failli faire les frais de l'explosion du tourisme de masse dans ce petit pays méditerranéen. Partout sur la côte monténégrine, des hôtels et des complexes touristiques ont dévasté les criques et les forêts de pins maritimes. Ancienne élue au conseil municipal, Zeynepa Lika est l'une des habitantes d'Ulcine qui s'est battue contre les projets d'urbanisation de la Saline.
Après la désintégration de la Yougoslavie, beaucoup d'entreprises publiques ont été privatisées, et parmi elles, la Saline Dulcine. Et en fait, en 2007, il est devenu clair pourquoi et dans quel but, à savoir transformer cette zone industrielle en terrain constructible. Et l'idée était en fait de faire ici un éco-resort avec des terrains de golf et une petite production de sel, même si nous savions très bien que cette petite production de sel ne pouvait pas fonctionner parce que les clients et les hôtes de luxe de cet hôtel n'auraient aucune envie d'avoir du bruit ni d'une vraie production. En fait, la Saline est devenue un objet de spéculation parce que quand vous achetez quelque chose pour 800 000 euros et qu'immédiatement après, dans un temps très court, elle est presque revendue pour 300 millions d'euros, les objectifs sont clairs. Ils voulaient tout simplement construire un hôtel ici.
Après 15 ans de batailles judiciaires et diplomatiques, les défenseurs de la Saline comme Zeynepa peuvent avoir le sourire. Cet aéroport des oiseaux d'Europe est officiellement devenu un parc naturel en juin 2019. Mais le vrai défi est encore à relever. Pour protéger efficacement la Saline, les ONG veulent s'appuyer sur les habitants d'Ulcine, mais aussi sur les sauniers, ceux qui en ont récolté le sel pendant tant d'années.
Aujourd'hui, on est avec un groupe d'habitants de la région qu'on a invités pour qu'ils nous présentent leurs idées pour la Saline, maintenant que c'est un parc naturel. Comment on peut les associer à ce nouveau concept et dans une perspective touristique? Nous croyons que l'une des possibilités les plus durables pour remettre économiquement la Saline sur pied, c'est évidemment de réactiver la production de sel dans un futur proche.
Je m'appelle Shaban Mucha.
Je suis un employé du parc national. Je m'occupe de la pompe. Cette pompe qui achemine l'eau vers les marais salants d'Ulcine. Avant, j'étais un ouvrier de la Saline pendant 30 ans. Mais bon, malheureusement, avec l'arrêt de la Saline, on s'est tous retrouvés sans travail. Nous, tous les ouvriers. Et voilà, maintenant, je travaille pour le parc national.
Du temps de son âge d'or, des années 50 aux années 2000, travailler à la Solana, à la Saline, c'était une fierté dans la région. Avec plus de 400 employés, les marais salants d'Ulcine étaient le centre économique du sud du Monténégro. Quelques 40 000 tonnes de sel étaient produites ici chaque année, soit plus de 60% de la production de sel de toute la Yougoslavie. Le regard perdu vers un groupe de mouettes qui s'agite devant lui, Shaban Mucha a du mal à croire à une reprise de la production.
Ça dépend de l'État. Si l'État veut que ça fonctionne,
la saline fonctionnera. Si l'État n'est pas intéressé, elle ne fonctionnera pas. C'est l'État qui décide. C'est une tragédie parce que trois fois, quand je travaillais ici, ce sel a obtenu trois fois le prix du meilleur sel européen, qualité supérieure. Il a eu un prix à Novi Sad, en Serbie, en Italie. C'était un sel complètement naturel, un sel des qualités supérieures.
Vous avez travaillé, quand vous travaillez pour le sel, ou maintenant pour le parc national, vous avez toujours travaillé avec les oiseaux. Est-ce que vous aimez travailler proche des oiseaux ?
En fait, nous, à l'époque, on faisait pas trop attention aux oiseaux. On s'occupait surtout du sel. Mais ils ont toujours été là. Mais en ce temps-là, quand le sel était produit, il y en avait peut-être encore plus, surtout les flamants roses, parce qu'ils recherchent certaines couches de sel. Solanplotcha, comme ils l'appellent. C'est une sorte de couche de sel dans laquelle les flamants trouvent leur nourriture.
Ok, Louis, viens avec moi, je vais te présenter à celles qu'on appelle les femmes aux mains d'or, parce qu'elles font vraiment des choses incroyablement belles à partir de produits d'olivier.
Das ist die Indira Taffa und sie ist eine Frau, die
voilà, Indira Taffa, c'est une femme qui a une fabrique d'olives. Elle produit de l'huile et des olives qu'elle prépare elle-même.
Moi, je travaille des produits à partir des oliviers et des olives. Et je pensais qu'ici, ça va devenir un nouveau lieu touristique. Et moi, j'aimerais pouvoir proposer mes produits aux touristes. Ça pourrait apporter un peu de revenus à ma famille, nous aider à vivre un peu mieux.
La production d'olives, est-ce qu'elle est très importante pour votre famille ?
Oui, c'est très important.
Et c'est quelque chose de traditionnel.
C'est traditionnel parce qu'on récolte les olives nous-mêmes quand on est sûr du moment. On récolte, puis on produit et on conserve nous-mêmes ces olives. En fait, c'est une tradition pour notre ville.
Au Monténégro, la transition économique qui a suivi l'effondrement de la Yougoslavie est loin de bénéficier à tout le monde. Les initiatives mêlant tourisme, protection de la nature et inclusion des populations locales restent rares. Mais à 50 ans passés, Indira veut croire en un avenir meilleur avec la saline.
Il y a peu de possibilités d'emploi pour des gens comme moi, très peu. C'est pour ça que j'espère que dans le futur, il y ait du nouveau et que je puisse travailler un peu plus. Et on aimerait aussi apporter notre contribution pour la nature et ce parc. Apporter notre contribution comme citoyenne pour améliorer les choses. Je suis venue quelquefois dans la saline quand j'étais plus jeune, avec l'école et plus tard quand mon mari a travaillé ici. Si, mais après, avec ce qui s'est passé et toutes ces histoires, on est moins venu. Mais maintenant que ça devient un parc national, je peux revenir voir et tout s'améliore.
Vous venez d'Ulcine ? La ville a beaucoup changé ces dernières années.
Oui, ça a beaucoup changé parce qu'on a beaucoup bétonné. La nature a été beaucoup détruite. Il y a beaucoup de lieux et de trésors qui étaient de grande valeur qui n'ont pas été préservés. Beaucoup a été détruit. Et j'espère qu'un jour, on protégera ces choses, qu'on protégera les oliviers, qu'on protégera la saline, qu'on protégera le parc, et pas le béton. Le béton, dans les villes les plus touristiques du pays, il y en a. Mais ici, les gens viennent pour la nature, pour se reposer, pour voir les oiseaux, pour les oliviers, pour la verdure. C'est ça notre Monténégro, mais il faut juste le préserver.
Quand on a commencé à travailler à la promotion de la saline Ulcine, personne ne venait. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 500 visiteurs par mois, ce qui est un succès. Nous ne voulons pas beaucoup plus, bien sûr.
500 people monthly visiting the site is quite nice number.
Mais 500 personnes par mois, c'est un nombre appréciable pour savoir qu'il y a un intérêt pour ce site et qu'il y a des opportunités pour développer de beaux tours ou des produits ou d'autres choses qui pourraient bénéficier aussi aux communautés locales.
Associer les habitants à la mise en place du parc naturel, mais aussi rétablir le niveau d'eau des différents bassins ou remplacer les machines rouillées, de nombreux chantiers restent à mener pour rétablir l'harmonie entre les oiseaux et le travail des hommes. Mais quand Jovana Janusiewicz aperçoit un groupe de pélicans frisés qui prend le soleil, elle ne peut qu'être optimiste.
For the nature protection, pelicans are the symbol of a great success of the NGO.
Pour les environnementalistes ici, les pélicans frisés sont le symbole d'un beau succès remporté par les ONG.
I think 5 years from 10-20 individuals.
Que le nombre ne cessait de décliner, mais en l'espace de 5 ans, de 10 à 20 individus, nous avons atteint plus de 270 individus l'année dernière.
And 78 chicks were successfully.
Et 78 nouveaux-nés ont été élevés avec succès, ce qui est un record sur le lac de Skadar, de l'autre côté de la montagne. Un vrai baby. Et ils sont vraiment... Ce sont des géants très fédérateurs. Nous les aimons beaucoup. C'est un bon signe de les voir dans n'importe quel endroit.
Faire de la Saline Dulcine la nouvelle Camargue des Balkans, Jovana en rêve. Après leur classification en parc naturel, les marais salants Dulcine pourraient être inscrits comme un site Ramsar, le principal traité international pour la protection des zones humides. Pour les flamants roses, comme pour les sauniers Dulcine, des lendemains meilleurs s'annoncent.
Un reportage de Louis Cillier réalisé par François Porcheron.
Dans nos maisons, il y a des trucs à faire. Revisser une ampoule au plafond. Dans nos maisons, des cahiers qui traînent. Des ciseaux, des marqueurs, des crayons. Dans nos maisons, il y a des livres qui traînent. On avait presque oublié leur nom. Dans nos maisons, il y a de l'amour qui traîne. Et des chansons. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons, j'ai vu l'amour renaître. Un paradis dans ce qu'on croyait prison. Dans nos maisons, j'ai vu des parents faire des gâteaux pour leurs petits garçons. Y'a de l'amour dans nos maisons, de la bravoure dans nos maisons. Y'a des rires dans nos maisons qui repoussent comme du gazon. Un peu comme si chacun de nos êtres pouvait enfin ouvrir sa fenêtre.
C'est pas du vent sur RFI. C'est l'un des objectifs du plan de relance français. Rénover 500 000 logements par an pour faire disparaître d'ici 2025 ce que l'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire des habitations mal isolées qui consomment trop d'énergie. Une ambition qui répond aussi à un enjeu social, car une famille française sur 10 n'arrive plus à payer ses factures pour se chauffer, s'alimenter et s'éclairer. C'est ce que l'on appelle la précarité énergétique. En cause, la hausse du prix de l'énergie, de mauvaises conditions de logement et des revenus modestes. Depuis 2014, le réseau Ecohabitat accompagne et aide des familles en difficulté à isoler leur logement pour leur permettre de faire, dans la durée, des économies et pour vivre mieux. Le Secours catholique les aide à faire le lien avec les familles. C'est une idée de Franck Billot qui a démarré ce dispositif dans les Hauts-de-France. Margot Emmerich et Clémentine Métainier l'ont rencontré et accompagné entre Compiègne et Amiens auprès de deux familles. La première a terminé ses travaux il y a peu de temps. La seconde les entame à la fin du mois.
Alors Franck Billot, bonjour.
Bonjour.
On vous rencontre dans le département de l'Oise, dans quelle commune ?
Alors dans une petite commune qui s'appelle Les Ageux, qui est tout près de Pont-Sainte-Maxence et qui est aussi à 20 km de Compiègne.
Alors vous êtes directeur du réseau Ecohabitat qui a pour objectif d'accompagner les familles les plus vulnérables dans la rénovation de leur maison, de leur habitat. Et vous avez notamment lancé assez récemment ici dans les Hauts-de-France un programme de financement, d'accompagnement en tout cas, de rénovation énergétique pour les ménages modestes. Alors on va y revenir, hein. C'est aussi toute l'histoire de ce reportage, d'aller à la rencontre de familles ensemble. Mais on voulait d'abord revenir sur l'actualité, ce grand plan national qui a été lancé au début du mois de septembre par le gouvernement pour répondre aux conséquences de la crise économique et sociale liée au Covid-19. 100 milliards d'euros, un grand plan d'urgence. Il y a 6,7 milliards qui sont consacrés à la rénovation énergétique. Donc cette première question, à qui est destiné cet argent ?
Alors, il est destiné en grande partie à des propriétaires privés. Ça va aussi concerner des collectivités, des entreprises pour faire de la rénovation du bâtiment. Donc, ça ne concerne pas, je veux dire, que des habitants, que des particuliers. Sur les un peu plus de 6 milliards, en fait, il y a 2 milliards en fait pour les propriétaires privés dans le cadre en fait de la prime Rénov. On pourrait dire en fait que c'est une bonne nouvelle, parce que si on regarde aujourd'hui le budget national de l'habitat, en fait c'est un peu plus d'un milliard, donc ça vient doubler le budget de l'ANA. Par contre, ça ouvre aussi, et on peut s'en réjouir, c'est que cette enveloppe, elle va aussi concerner des gens qui sont moins en difficulté financière. Donc il y a un grand élan en fait pour encourager les gens à faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Ça c'est bien, parce que c'est bien pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi bien de donner un signal à tous les Français que c'est possible de faire des travaux. Et c'est pas qu'une question en fait, j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens. Par contre, c'est vrai que moi j'ai une toute petite réserve, c'est qu'en ouvrant en fait cette enveloppe et en annonçant tous ces milliards, j'ai envie de dire, il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui sont invisibles, qui sont en très grande précarité, pour qui ces milliards, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et derrière, quand même, une complexité administrative dans la rénovation de l'habitat, moi, j'ai un peu peur, en fait, que ces invisibles, si on ne met pas les moyens pour les accompagner et accompagner aussi le budget de ces travaux pour ces ménages qui sont particulièrement en grande difficulté, je crains que ça n'aille pas à ces publics en fait, qui sont pour moi aussi les plus prioritaires dans un plan de relance.
De manière très concrète, aujourd'hui on parle de 7 à 8 millions de passoires thermiques en France. Quand on parle de rénovation énergétique pour atteindre l'efficacité thermique, etc., de quoi on parle très très concrètement? Il s'agit de quoi?
La définition la plus simple, c'est une famille en précarité énergique consacre 8% de ses ressources pour payer des factures d'énergie. La difficulté, c'est qu'il y a des gens qui renoncent même à se chauffer, justement, pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants ou mettre les enfants à la cantine. Donc, quand on parle de précarité énergétique, c'est certes des maisons qu'on a du mal à chauffer ou qui demandent beaucoup, en fait, d'argent pour les chauffer. Mais c'est aussi pour un certain nombre d'habitants, des logements qui sont très dégradés, indignes, et dans lesquels les gens, en fait, vivent des situations, en fait, d'insalubrité. Donc, ce sont, en fait, ces familles, nous, pour lesquelles, en fait, on est particulièrement attentifs. Donc, c'est pas seulement la rénovation énergétique, se poser la question d'une enveloppe thermique, de mettre un isolant et de changer les fenêtres et un système de chauffage. Pour un certain nombre de gens, c'est d'avoir un vrai programme de travaux qui permet à des gens de s'en sortir, de vivre dignement dans leur logement. Et on le voit bien, quand on permet à des gens de vivre dignement dans leur logement, ce sont des gens qui retrouvent un travail, ce sont des enfants qui vont pouvoir aller mieux à l'école. Et donc, c'est pas seulement le moral des Français qui va mieux, ça remet en route des gens vers l'emploi.
Parce que là, on va le voir très concrètement, mais on ne parle pas seulement de changer une fenêtre ou de changer un toit. C'est également utiliser des matériaux.
Absolument. Donc, d'ailleurs, c'est un peu ma crainte, c'est qu'on annonce à toutes les entreprises qu'il y a des milliards à utiliser. Si on fait des travaux pas chers pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, on va rester en fait sur des petits travaux et on n'engage pas en fait grand chose. Aujourd'hui, on le sait, il y a des matériaux biosourcés, il y a des techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle de la rénovation globale, pour atteindre des maisons qui sont en classe énergétique A ou B, qui consomment moins de 50 kWh par mètre carré, donc ça c'est un peu technique. J'aime bien prendre l'exemple en fait de ma propre maison, où moi je constate qu'on sait faire des maisons qui consomment 80 € en fait de chauffage à l'année en utilisant des matériaux biosourcés. Donc la protection, j'allais dire, de la planète, on peut en faire un levier d'emploi, mais on peut aussi en faire une formidable opportunité pour aller chercher des techniques qui vont permettre de faire un habitat sain, durable, pour les personnes, mais aussi en termes de qualité en fait environnementale, en utilisant des matériaux par exemple biosourcés.
Et donc c'est aussi possible et accessible pour les ménages les plus modestes, c'est aussi de délivrer ce message-là.
Oui, parce que du coup c'est pas tant le prix d'un isolant en fibre de bois qui coûte le plus cher. Le plus cher en fait finalement c'est la main-d'œuvre, c'est la technique, mais c'est pas tant les matériaux. Encore faut-il avoir la volonté d'aller chercher en fait ces matériaux écologiques, dont je reconnais que beaucoup d'entreprises en fait ne connaissent pas, parce qu'on a des habitudes et on ne va pas chercher en fait quelque chose de nouveau qui peut avoir un impact pour l'environnement.
Alors du coup aujourd'hui effectivement il y a ce grand plan, mais il y a beaucoup de dispositifs qui existent, c'est pas absolument pas nouveau, ça fait même plus de 10 ans qu'il y a cette politique un peu volontariste de l'État à vouloir essayer de régler cette question de la rénovation énergétique. Le grand plan Habiter Mieux, qui est le plus connu, les chèques énergie, il y a tout ce fonds de solidarité logement qui existe. Voilà, on a l'impression qu'il existe beaucoup de choses. Est-ce qu'on en a besoin de tous ces dispositifs ?
Il y avait une note la semaine dernière qui annonçait 18 grands dispositifs pour les propriétaires occupants. Et si on les décline à l'échelle des collectivités locales, je crois qu'on arrive à 1500 ou 1800 dispositifs. C'est ça qui est difficile, c'est que de l'argent, globalement, il y en a. C'est pas ce qui manque. Les dispositifs, ils sont là. Mais j'ose dire, chacun son pauvre. Donc l'État met en place son propre dispositif. Une région va mettre en place son propre dispositif. Une communauté de communes va mettre son propre dispositif. Et puis une commune va décrire ses aides. Les groupes de protection sociale vont pouvoir intervenir. La CAF, la banque, etc. Du coup, les plus malins en fait arrivent à jongler avec Internet. Si les gens sont à l'aise dans l'administration, dans les dossiers administratifs, il n'y a pas de problème. Les plus éloignés d'Internet, d'un travail d'écriture, de petites cases administratives en fait à remplir, ce sont des gens, comme je dis, qui sont très vite largués, parce que on leur demande en fait des tas de questions dans 4, 5, 6, 7, 8 dossiers qui peuvent être différents mais complémentaires pour atteindre 90% de financement du montant des travaux. Bien souvent, les gens s'arrêtent à 55% du montant des travaux et ils se disent le reste, de toute façon, je vois bien, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué quoi. Donc,
Et où se situe la France dans on va dire dans l'Union européenne ou par rapport à cette question de précarité énergétique? Est-ce que c'est un bon élève?
Je pense qu'en termes de rythme et de qualité de la rénovation de l'habitat, je ne suis vraiment pas sûr en fait qu'on soit un bon élève. Donc on a les ingrédients, mais on a quand même du mal à mettre tout ça en mécanique pour atteindre des objectifs qui puissent s'aligner en fait sur le plan climat par exemple.
Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations. On voit que vous maîtrisez bien le sujet des enjeux de la rénovation énergétique. Et justement, pour illustrer très concrètement ce que vous mettez en place au sein de Réseau Eco Habitat, REH, nous voici actuellement dans le jardin d'une des familles que vous suivez, que vous accompagnez. Il s'agit de Clarisse et Stéphane. Alors on voit un grand toboggan derrière vous, un immense arbre au milieu du jardin, c'est très beau. Pouvez-vous revenir un peu sur cet accompagnement ?
Nous sommes chez une famille qui s'appelle Stéphane et Clarisse, qui ont 3 enfants, qu'on a accompagnés pendant plus de 2 ans, en fait, pour aller chercher tous ces dispositifs financiers et pour pouvoir faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Cette famille, elle est accompagnée depuis le début par un bénévole du Secours catholique qui s'appelle Christian Guillet et qui est en fait la personne qui a permis à Clarisse et à Stéphane de penser que c'était possible de construire un projet et qui va permettre à leur maison de réduire par 3 ou par 4 leur facture d'énergie. Quand on a connu en fait Clarisse et Stéphane, Clarisse n'avait pas de travail. Stéphane venait d'installer sa micro-entreprise en carrosserie et ils avaient, je crois, 3500 euros de chauffage à l'année. Vous imaginez, avec un salaire, 3 enfants et une maison voilà, qui était la parfaite passoire énergétique. Voilà, donc pour nous, c'est un projet qui a réussi. Enfin, voilà, on aime aussi venir ici parce que le sourire radieux de Clarisse et l'enthousiasme aussi de Stéphane nous font dire que voilà, c'est possible de sortir en fait et voilà, de réaliser des projets qui transforment la vie des gens, quoi.
Bonjour Clarisse, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous.
Bah, de rien.
Donc vous êtes dans cette maison depuis combien de temps ?
10 ou 11 ans.
Avant d'avoir des enfants alors ?
Oui, avant mon aîné.
D'accord. Et donc vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui ?
Alors 9, 4 et 2 ans.
Quand vous êtes arrivé ici, comment vous nous décririez effectivement cette maison ? Quand on dit c'est une passoire énergétique, est-ce que vous en aviez conscience déjà ?
Oui, plutôt, parce qu'on avait à peu près 300 euros d'électricité par mois, plus aux alentours de 60 euros de fuel par semaine l'hiver, parce que les radiateurs ne suffisaient pas à chauffer la maison. Et que même comme ça, on atteignait des températures de 20 degrés quand tout tournait à fond. Le matin, si la fuel était vide et qu'il s'était éteint, on avait 14-15.
Et ici, il fait plutôt froid l'hiver. Enfin, il y a plusieurs mois quand même où il faut chauffer beaucoup.
Ben, comme vous avez vu, on est en sortie de village, en race campagne. Il n'y a rien pour arrêter le froid, quoi. C'est la maison où j'ai grandi. Au décès de mon père, elle a été mise en location puisque j'étais encore enfant. Et ensuite, quand il a fallu me loger, ben, on est venu ici. Pour justement ne pas avoir de loyer à payer, quoi. Et sincèrement, vu comment elle était quand je suis arrivée il y a 10 ans, s'il avait fallu acheter, j'aurais pas acheté cette maison.
Est-ce qu'on peut faire une petite visite ?
Oui, bien sûr. En premier, je sais pas si Franck vous a dit, quand ils sont arrivés, nous on le savait pas, mais la toiture était entièrement fissurée de partout. On savait pas que le plafond prenait l'eau.
Et quand vous dites on savait pas, on nous l'a pas dit, c'est qui en fait qui ne vous l'a pas dit ?
Alors, on a fait une demande d'aide la toute première fois pour payer une facture parce que, avec un budget restreint, puisqu'on était au RSA, on ne pouvait pas payer les 300 euros par mois, chaque mois. Et l'assistante sociale que j'avais vue a été outrée et m'a dit « c'est pas possible de payer une telle somme ». Et c'était dans les débuts des aides gouvernementales. Et elle m'a dit « il y a peut-être quelque chose à faire ». Donc on a contacté l'organisme de base, Citémétrie, qui est venu et qui nous a expliqué vaguement comment ça fonctionnait, qu'on avait le droit à, il me semble, 30% de la valeur des travaux qui était remis après les travaux. Le problème, c'est qu'on n'avait pas ni les fonds pour avancer, ni la banque qui voulait avancer. Ensuite, on ne savait pas dans quel sens fallait aller. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire en premier, les fenêtres, parce que nous, l'évidence, c'était les fenêtres en premier. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez du budget. Donc on avait fait faire des devis sans avoir conscience de ce que ça valait les travaux, en sachant qu'il y a certains entrepreneurs quand ils venaient ici et qui ont vu l'état de la maison, ils m'ont dit « je vous envoie un devis sous 10 jours » que je n'ai jamais reçu parce qu'ils savaient très bien que quelqu'un dans notre situation ne ferait pas faire les travaux. Donc ils ne se fatiguaient pas. Et en cherchant sur Internet, elle a trouvé justement Réseau Ecohabitat, qu'on a contacté par téléphone, qui ont fait une première visite et qui nous ont expliqué là tout ce qui n'allait pas. Et qui nous ont promis de nous aider. Avec justement, Christian Guillier était présent, c'est eux qui ont vu la toiture fissurée, la cheminée existante qui n'avait pas de boisseau et donc qui risquait de mettre le feu à la maison à tout moment. Des choses qu'on ne savait pas. Et qui ont vu l'état des fenêtres qui étaient des menuiseries en bois et le bois était vermoulu, pris par l'humidité, avait gonflé, l'eau rentrée, le froid rentré.
Alors justement, vous parliez de Christian. Christian est là. Bonjour.
Bonjour. Alors moi je suis Christian Guillet, je suis le responsable de l'équipe de Pont-Sainte-Maxence et donc je suis chargé aussi, je suis référent concernant le centre de l'Oise, concernant la précarité énergétique et donc j'ai des dossiers à suivre, plutôt en accompagnement. Il y a des personnes qui sont quand même en grande difficulté et donc on les aide au maximum en leur faisant des bons alimentaires. Si on a de la nourriture, on leur apporte la nourriture, de manière à les aider, tellement ils ont des factures élevées au point de vue énergie.
Parce qu'en plus, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur une période difficile, étant donné que c'était aussi la période automne-hiver, il me semble.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est les périodes où on était à se demander chaque jour comment choisir entre ce qu'on allait manger et s'il faisait froid. Il m'est arrivé le matin de dire à mon fils, mets ton manteau dans la maison, parce qu'il avait froid pour déjeuner avant d'aller à l'école.
Vous pouvez nous montrer dans la maison, par exemple, voilà, l'endroit, la pièce, Christian, vous qui vous a effaré, et puis vous, Clarisse, dans laquelle c'était impossible de vivre.
La pièce, c'est simple, c'était la chambre. La chambre où il y avait de l'humidité partout. Et là, c'était vraiment affreux et je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et ça, je pensais, quand je rentrais chez moi, je me disais, comment ils peuvent faire pour pouvoir dormir dans cette pièce qui était vraiment infecte par le fait.
Les plus grosses fenêtres qui posaient problème, c'est celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir, l'humidité qui entrait par la fenêtre en bois a fait décoller tout le carrelage et a fait gonfler le plan de travail de la cuisine et pourrir les meubles derrière. Pour l'instant, la fenêtre a été changée, on refera ce qu'il y a à faire quand on aura un peu plus de moyens.
Et donc les travaux ont eu lieu quand? Ils ont duré combien de temps?
En janvier de l'année dernière. Pas tout à fait un mois.
Ça a été très vite. Et l'amélioration, elle est quand même là.
Alors justement, elle se situe où l'amélioration? Mais vraiment sur les choses du quotidien.
Pour avoir une température normale constante, que l'été, comme là, dès qu'il fait un peu chaud, on est bien dans la maison. Avant l'été, par exemple, à 15h, il faisait plus chaud dedans que dehors. Donc on ouvrait toutes les fenêtres, histoire d'avoir un minimum d'air, puisqu'il faisait la même température dedans que dehors.
À combien s'élèvent vos factures aujourd'hui? Vous avez vraiment vu la différence, enfin, globalement hein.
Aujourd'hui, ma facture d'électricité, elle est passée de 300 euros auparavant à moins de 150 euros aujourd'hui. Il me semble 120. Et auparavant, j'utilisais 3 bidons de pétrole, 3 à 4 par semaine, à 25 euros en moyenne. Aujourd'hui, c'est un sac de granules à 2,30€ par jour, donc moins de 5€ par semaine.
Donc vous aussi, forcément, vous allez mieux?
Oui, bien sûr. C'est sûr, le moral y est. C'est surtout que quand on rencontre pour la première fois les gens de réseau Ecohabitat ou vous, Christian, et qu'ils viennent nous dire « Oui, vous en faites pas, tout va bien se passer, c'est atroce, on va vous aider, c'est sûr, on arrivera à quelque chose. » Aucun particulier peut arriver à faire ce que réseau Ecohabitat fait pour nous. Parce qu'il y a un tel cumul de primes différentes, et en plus, on ne nous dit pas lesquelles sont cumulables. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas.
Et vous, dans votre vie personnelle, de femme, de mère, qu'est-ce qui a changé?
Moi, le souci de se demander toujours, de courir après les radiateurs, le chauffage, de quelle heure il est, attention, il faut mettre en route. Parce qu'une fois, j'avais oublié de mettre en route dans la chambre de mes garçons, et il avait fait 14 degrés, il me semble, au moment de les coucher. Alors, je les ai fait patienter une heure dans la salle parce que c'était pas tolérable de les coucher dans une chambre à 14 degrés.
Merci beaucoup, Clarisse.
De rien.
À bientôt. Au revoir.
Je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses clochers.
Alors nous voilà repartis sur la route en votre compagnie, Franck Billot. Et là, on vient de passer de l'Oise à la Somme, c'est bien ça?
Exactement. On est dans la Somme, on est à 30 km de Candas, un petit village au nord de la Somme.
Vous l'avez évoqué, hein, ce nouveau dispositif que vous lancez au sein de réseau Ecohabitat. Donc comment on l'appelle ce dispositif? Et puis comment il se développe et il concerne qui?
Alors en fait, le Secours catholique a appelé cette action d'accompagnement de personnes en précarité énergétique, il a appelé en fait indigne-toi, parce qu'on peut s'indigner pour avoir une bonne toiture, et on peut aussi parler d'un digne-toi, c'est-à-dire autour de la dignité des personnes. Donc indigne-toi a démarré en fait en 2014 avec ce constat, c'est que 25% des aides financières consacrées par le Secours catholique pour aider des personnes en difficulté servent à payer des factures d'énergie. Chaque fois qu'un donateur donne 100 euros, je me dis mais bon sang de bonsoir, on redonne systématiquement 25 euros à EDF par exemple pour payer une facture. Donc plutôt que donner l'argent à EDF, puisqu'il y a des dispositifs d'amélioration de l'habitat, comment on pourrait permettre à ces personnes de faire des travaux, et quitte à ce que le Secours catholique puisse peut-être compléter quand il le faut le programme de travaux pour soulager le reste à charge. Donc là, nous, on accompagne modestement 75 familles sur la région Hauts-de-France. Ça veut dire quand même qu'il y a un gros travail de sensibilisation, d'information des bénévoles sur le fait que de l'argent, il y en a, et qu'il vaudrait mieux en fait travailler sur les causes de la pauvreté. Et la cause, c'est les contraintes financières que les gens ont à payer leurs factures d'énergie, en l'occurrence.
Et des factures d'énergie, alors très concrètement, qui vont s'élever, par exemple, donc on l'entendait ce matin, Clarisse nous a donné un ordre d'idée, mais sont très chères et sont liées à quoi? Par exemple, parce que l'isolation thermique est très mauvaise, ou parce que, effectivement, le chauffage, en fait, ils ne sont pas passés au chauffage au bois parce que pour des raisons financières, c'est vraiment ça, ou c'est aussi de la méconnaissance?
Il y a trois facteurs. D'abord, en fait, on peut dire que le prix de l'énergie depuis 20 ou 30 ans n'a jamais cessé d'augmenter. Deuxième facteur, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui sont en difficulté financière. Et puis trois, on a construit des logements dans les années 70-80. Ces logements qui coûtaient peu cher en énergie il y a 30 ans, aujourd'hui coûtent excessivement cher parce que les gens n'ont pas eu forcément les possibilités de faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Donc un habitat dégradé avec des gens pauvres dedans et un prix de l'énergie en fait qui ne cesse d'augmenter, eh bien en fait on a tous les ingrédients pour que ça plombe le ménage de ces mêmes familles en difficulté. Là, il s'agit d'un couple avec deux grands enfants. Je suis pas sûr qu'on puisse les rencontrer pour des travaux qui vont bientôt démarrer. Donc ça, pour des familles, c'est toujours un peu Noël avant l'heure, j'ai envie de dire. Surtout dans une période où on sait que l'automne va arriver, où la pluie aussi et le froid peuvent arriver. C'est toujours une période critique pour nous, le mois de septembre et octobre, parce que les gens voudraient voir leurs travaux arriver, et on sait que pour des familles, il faudra encore attendre plusieurs mois, malheureusement. Voilà. On va se mettre là. Monsieur Yann Prouveau.
Bonjour.
Bah, merci de nous recevoir.
Ça a été dans la précipitation.
C'est vrai, ouais, vous avez un rendez-vous ce matin.
Ouais.
Du coup, c'était un peu la course pour vous. Alors. Donc, ça doit démarrer bientôt. Je ne sais plus si on vous a donné la date ou pas.
Alors, justement, j'ai été recontactée ce matin. Ça mettrait en route le 27. En fait, ils ont déposé le plus gros des matériaux le 27 et ça commencerait réellement les gros travaux le 5 octobre.
D'accord.
On n'y est pas, mais on n'en est pas loin.
Ouais, 27 octobre, ça
devient. On a toujours eu des grosses factures. Il y a 26 ans qu'on habite ici et. Bon, en fait, j'ai perdu mon emploi aussi entre temps, donc ça a été un peu plus dur suite à une opération. Donc, vous voyez, on avait commencé, mais bon, manque de moyens, on a arrêté. Et puis, tout est parti, je vous dis, d'une facture qu'on ne pouvait pas payer.
Alors là, quand on lève la tête au-dessus de vous, on voit le toit, mais
on voit l'ancien
plafond.
Voilà.
Et on voit qu'il y a un trou, en fait.
Voilà. Ça, c'est nous qui avons commencé. On ne pouvait plus. Moi, de 1200, 1300 de salaire, je suis descendu à 800 de chômage. Là, actuellement, j'en ai 300. Je ne me vois pas acheter des matériaux pour faire des travaux. Sinon, on ne mange plus, on ne paye plus de factures, on ne fait plus rien. Parce que, on faisait un petit peu de course, mais ce qu'on avait à côté qu'on nous donnait, le lait, c'est bête, mais le lait pour les enfants, qui coûte quand même sacrément cher, j'en achetais plus.
Donc, avec l'approche des travaux, qui est imminente, donc là, bientôt, début octobre, est-ce que ça vous fait plus peur ou est-ce que vous êtes vraiment contente?
Quand j'ai vu arriver bonhomme pour la toiture. j'y croyais pas. Parce que la toiture, c'était une catastrophe. Il pleuvait dans la maison, il y a des auréoles au plafond dans les chambres. C'était la catastrophe. Il neigeait dans la maison. Et je peux vous dire que là, les dernières pluies, on a dormi sur nos deux oreilles. Chose qu'on ne faisait pas avant. Parce que bah, toujours la hâte de dire bah, on va se lever, on va avoir de l'eau, on va avoir ci, on va avoir ça. Là, on dort. C'est bête, mais bah, toujours se demander si bah, ça ne va pas tomber, si ça ne va pas. Plus d'une fois, on est monté hein, soit avec ouais. Le Stio. Pour remettre des tuiles en plein hiver, parce que enfin, des ardoises, parce qu'il pleuvait, parce que. Je sais pas, les portes vont être changées. Ça va devenir deux portes en PVC. Ouais. Toutes les fenêtres de derrière, ça va être des fenêtres PVC pareil, double vitrage. En fait, j'ai aussi un projet de famille d'accueil par la suite. Donc, j'ai une pièce au bout qui est actuellement ma buanderie, qui va se transformer en chambre pour accueillir une personne handicapée mentale.
Donc ces travaux vont quand même changer beaucoup de choses, au-delà simplement de l'énergie ou des factures.
Au-delà des travaux, ça va aussi m'apporter une vie sociale beaucoup plus... Voilà, ça va nous changer la vie. On peut faire des projets qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. D'ailleurs, j'ai décroché un emploi hier.
Félicitations.
Voilà.
Et là, concrètement, sur quoi allez-vous faire des économies?
L'eau, parce qu'il y a beaucoup de fuites. Des grosses factures d'eau aussi, à 900 euros d'eau. Hein. Tous les 6 mois. Donc il y a un tuyau qui passe dans le mur, il y avait une fuite à ce niveau-là. Les toilettes, il y a des fuites. Enfin, il y a des fuites. Partout, il y a des fuites. Électricité, parce que bon, pas de double vitraux, pas isolé partout. Les portes, elles ne sont plus non plus toutes neuves. Et là-haut, pareil, on aura des radiateurs avec thermostat. Là, il y aura un poêle à granules, donc plus d'achat.
Oui, j'allais vous demander comment vous alliez vous chauffer.
Non, on passe au poêle à granules.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, ça va s'élever à combien, vos travaux, ici?
Alors, mon Dieu, il y en a pour plus de 60 000 euros. Mais avec beaucoup d'aide.
Et vous payez un gros montant?
Pour l'instant, moi, sa charge était de 5 000 et quelques euros. Venez, je vais vous faire voir, vous allez comprendre. Quand on voit, on comprend. Hein,
c'est la pièce pour vous, la salle de bain, qui est la plus...
Ma cuisine, ma salle de bain. Parce qu'en fait, ici, avant, c'était la chambre des garçons. Là, il n'y avait pas l'escalier. Hein. Il y avait un dessous d'escalier. J'avais mis un rideau. Puis j'avais mis ma fille en dessous de l'escalier. Pour caler son intimité, on faisait comme on pouvait. Et voilà la salle de bain. Vous allez comprendre.
Vous pouvez me la décrire?
Alors, toilette avec un broyeur. C'est une vraie saloperie. Parce que ça se bouge tout doit toucher. La douche, bah c'est tellement humide que tout se casse. C'est la deuxième qu'on met. Les parois, elles se cassent.
En plastique, la
c'est
douche.
Du plastique. Oh, on ne peut rien mettre. Dès qu'on met quelque chose, c'est tellement humide que bah, ça ne reste pas propre, en fait. Même si on est propre. Parce que nous, on sait que c'est fait. Moi, quand je regarde ça, pour moi, c'est pas propre. Voilà.
Et vous savez combien de temps vont durer les travaux?
Alors, moi, on m'a dit environ 6 semaines. D'appréhende toujours. Savoir comment ça va aller, savoir s'il va pas y avoir des surprises, parce que on casse, on sait pas ce qu'il y a derrière. Nous, on en a eu la preuve dans la cuisine. Je vous dis, quand c'est arrivé pour la toiture, à la limite, je me demandais si c'était vrai. Je crois que je vais voir un débarquer. Je vais voir un débarquement, je vais me demander si c'est encore chez moi.
Oui. Oui. Se préparer au changement, en fait, de votre maison, vous allez plus la reconnaître aussi.
C'est des souvenirs, déjà. Puis voir l'évolution aussi. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ma douche.
J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long. Et des portes aussi, faut le reconnaître. Et des portes aussi, il faut bien sortir. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long.
Plus que quelques mois avant de voir le résultat. Il est urgent que ce genre d'accompagnement se développe car en 2019, le médiateur français de l'énergie a observé une hausse historique du nombre de foyers dans l'incapacité de payer ses factures d'électricité. Des chiffres qui devraient augmenter avec les conséquences économiques de la crise sanitaire. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Rendez-vous demain, même planète, même heure.